إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. مرحبا بكم. جيسبر كو تو الموند إن شاء الله تعالى فا بيان، وكو الإيمان فا بيان، وكو لا سونتي بإذن الله تعالى فا بيان، وكو توت لا فامي فا بيان. طيب، دونك إن شاء الله تعالى، أون سيت سواري دو mercredi 16 Chouel 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 14 septembre 2011, on va inshallah ta'ala lire quelques intérêts, quelques fawaïd de l'un des fabuleux livres de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, son livre qui s'appelle où il a expliqué Boulour al-Maram, qui s'appelle exactement et plus précisément فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. طيب، on va citer inshallah ta'ala quelques فوائد, quelques intérêts. Donc inshallah ta'ala il serait important, ou il serait bien pour vous aussi, quand il y a des فوائد qui vous plaisent, mais qui vous conviennent, et peut-être même que vous cherchiez, c'est bien donc d'avoir un stylo à côté de soi pour noter l'intérêt qui vous convient ou bien qui vous cherchez. Donc, on va commencer, inshallah ta'ala, par le tome numéro 1. Donc, nous sommes au tome numéro 1. D'ailleurs. Donc, inshallah ta'ala, je continue. Je continue, donc, je disais. Ensuite, pour la... Comment ça s'appelle? Pour la connexion aujourd'hui, inshallah ta'ala, il faut un peu patienter. De temps en temps, je pense que je serai déconnecté, car même les gens qui sont allés pour renouveler leur connexion, etc., on leur a dit que ces temps-ci, la connexion était mauvaise. C'était mauvaise, du moins dans le quartier où j'habite. Al-Muhim. Donc, c'est le tome numéro 1. Voici, Inch'Allah Ta'ala, le premier intérêt, la première faïda. Le Cheikh dit, page 123. Tome numéro 1. Page 123. Avant cela, n'oublie pas, Wesmak Muslim, si c'est toi qui diffuses là-bas, n'oublie pas d'écrire sur la bannière que le cours est diffusé maintenant en direct, qu'il est en direct ici. Naam, section Islam. Tayyib. Le Cheikh Rahimallah dit الدليل على جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب الجلجل الذي كان عند أم سلمة فيه شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh dit, la preuve que c'est permis, la preuve que c'est permis d'utiliser l'argent et l'or. L'argent et l'or, c'est-à-dire le métal d'argent, le métal d'or, comme par exemple une assiette en or, une assiette en argent, quelque chose comme ça, il a dit, à condition que ça ne soit pas dans le fait de boire ou de manger. Il a dit, le délit qui permet l'utilisation des ustensiles en argent et en or, à part dans le fait de manger, il a dit, c'est quoi le délit? Parce que vous savez, le prophète Sassan a interdit de boire et de manger dans les ustensiles en or et en argent, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Mais certains ont dit que ce n'est pas seulement il est interdit de manger et de boire, mais toute autre chose. Par exemple, il est interdit de faire les ablutions dans une tasse en or, une tasse en argent, par exemple. Cheikh Ibn Uthaymeen va donner la preuve que quoi? Que ce qui est interdit en ce qui concerne l'argent et l'or, c'est seulement boire et manger. Il a dit quant à les utiliser pour une autre chose, une autre vocation, il a dit c'est permis. Il a cité quoi le délil? Il a dit que Umm Salama, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait quoi? Avait, disons, comme un petit vase, une petite tasse, un petit vase, quelque chose comme ça, où elle gardait quelques cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce petit vase qu'elle avait était en argent. Pourquoi elle gardait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour, disons, à but médical. Quand quelqu'un, par exemple, tombait malade, ou bien avait de la fièvre, ou bien, il allait chez Umm Salama, radiallahu ta'ala anha, elle prenait ce vase où il y avait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle mettait un peu d'eau sur les cheveux, ensuite mélangée, et cette personne, bi'idnillahi ta'ala, guérissait, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, il a dit, c'est une preuve, et ce vase était en quoi? Était en argent. Il a dit donc, c'est une preuve que ce qui est interdit, c'est seulement de boire ou de manger dans l'ustensile qui est en argent ou bien en or. Ce que je viens de citer, vous le trouvez, Inch'Allah Ta'ala, page 123. C'est bien comme ça, à chaque fois, vous écrivez quelle page je suis, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi vous notez? Comme ça, on ne sait jamais, une fois, une discussion ou bien quelqu'un vous dit non, ça c'est pas vrai. Ou là, vous dites si, voilà, la vie de Cheikh Ibn Uthaymeen, Boulour al-Maram, le charh de Boulour al-Maram, tombe 1, page 123. Mais, autre intérêt, Inch'Allah Ta'ala, le shir, page 146, le shir, pour lui, la vie le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que la salive de l'âne, la salive qui sort de la bouche de l'âne, la salive donc de l'âne, et sa sueur, la sueur de l'âne, wa dam'ahu, wa, yani rajaha dam'ahu, dam'ahu c'est ses larmes, les larmes qui coulent des yeux de l'âne, ainsi que de la mule de l'âne, ainsi que de la mule, il a dit, sont purs, ne sont pas de la souillure, sont purs, contrairement aux excréments de l'âne, parce que l'âne ne se mange pas, vous connaissez la règle, tout animal qui ne se mange pas, ses excréments et son urine sont de la souillure, et tout animal qui se mange, ses excréments et son urine sont purs. Donc, l'âne et la mule, c'est interdit de le manger. Ses excréments et son urine, ou leurs urines, ce sont de l'âne et la mule, sont de la souillure. Mais reste quoi? Reste leur salive, leurs larmes et leur sueur, sont pures. Quel est le délil? Le délil, c'est le qiyas, l'analogie. L'analogie par rapport à quoi? Par rapport au chat. Le prophète Islam, en parlant du chat, il a dit qu'il n'était pas najis. Il a dit laysat bi najis. En parlant de yani le hira, il a dit laysat bi najis. Ensuite, il a montré pourquoi. Il a dit pourquoi n'est pas le chat, pourquoi il n'est pas najis, il n'est pas, c'est pas de la souillure. Il a dit fa inna min at-tawafat, parce que elle est tout le temps avec nous, entre nous, sur notre giron, elle est sur tes habits, elle est partout. Non, le chat est partout avec nous, collé à nous. Il a dit, c'est pour cela que ce yani n'est pas najis. La même chose pour l'âne et la mule, surtout autrefois, on travaillait beaucoup avec, donc du matin au soir, on est yani, en contact avec l'âne et la mule, donc ils ont la même, disons, illa, la même excuse, de la même chose, donc c'est le même jugement, les deux ne sont pas, Inch'Allah Ta'ala, ne sont pas yani, souillés. Donc c'était page 146. Non. Ensuite, dans la page 154, le Cheikh Rahimahullah a cité que que parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, le prophète islam a beaucoup de particularités. Beaucoup, hein. Parmi, par exemple, quand il faisait la prière, il voyait derrière lui. Par exemple, il pouvait se marier avec plus de quatre. Quand il dormait, ses yeux ne dormaient pas. C'est à fond, ses yeux dormaient, mais son cœur ne dormait pas. Un moins, beaucoup de particularités. Ici, il en a cité une. Il a dit quoi? Il a dit, parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que jamais il ne tombait en janaba. En janaba, que ça veut dire? Plutôt, bon, janaba, ça se fait s'il fait quelque chose de halal. Mais le cheikh ici veut dire, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de rêve érotique. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de rêve érotique. Et je pense, Allahu alam, je pense que tous les prophètes et tous les messagers sont comme ça. Car le rêve érotique, en fait, il vient de quoi? Il vient du shaitan. C'est le shaitan qui, dans le rêve, il va te faire voir des choses, etc. pour arriver à avoir un rêve érotique. D'un côté, c'est le shaitan qui fait le rêve érotique. Et de l'autre, entre parenthèses, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah ta'ala n'avait pas voulu que le shaitan nous fasse cette chose, il l'aurait empêché. Vous savez ça. Allah ta'ala l'empêche, il ne peut rien nous faire. Mais Allah ta'ala le laisse nous faire cette chose, car c'est une rahma d'Allah azza wa jal. Des fois, la personne a besoin de ce rêve érotique pour, disons, se vider si elle n'est pas mariée, etc. Hein, pour ne pas tomber malade, bi'idhnillahi ta'ala. Hein, donc, c'est dans la page 154. Hein. Dans la page 163. Dans la page 163. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdoulilah. Dans la page 163, tome numéro 1, Sharh Bulugh al-Maram, hein, le Cheikh a dit, من الأدلة على طهارة الخمر أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل الأواني لما حرمت مع أنه أمر بغسل أواني الخمر الأهلية لما حرمت. Le Cheikh dit, parmi les preuves que l'alcool est pur et ce n'est pas de la souillure, c'est quoi? Il a dit, parmi les preuves, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'alcool a été interdit, il n'a pas demandé aux sahaba de laver les ustensiles, de laver les assiettes et les marmites, etc. Alors que, lorsque l'âne est devenu interdit, car l'âne auparavant n'était pas interdit, c'était permis de manger l'âne. Mais lorsque l'âne, son interdiction est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux sahaba de laver les ustensiles et de laver les marmites. Pourquoi? Parce que c'est de la souillure. On va pas manger dans une assiette pleine de souillure. Alors que pour l'alcool, il n'a pas demandé qu'on lave pas les assiettes, disons, ni les verres, ni les tasses, ni rien. Le Cheikh a dit, donc c'est une preuve que quoi? Que l'alcool est interdite mais n'est pas de la souillure. Car vous savez que la règle, entre parenthèses, il y a une règle qui dit toute souillure est haram, est interdite. Mais pas toute chose interdite est de la souillure. Il faut bien apprendre cette règle. Toute souillure est haram. Et non pas tout haram, c'est de la souillure. Je donne un exemple. Toute souillure, c'est haram. Bon, ça n'a pas besoin d'explication, c'est clair. Mais pas tout haram, c'est de la souillure. Par exemple, l'or. L'or pour l'homme, c'est haram, c'est interdit qu'il mette une chaîne en or ou bien une bague en or, l'homme. Et pourtant, l'or, c'est pas de la souillure, c'est pur. Je peux prendre une bague et la toucher, et je peux même embrasser une bague. Pourquoi? Parce que c'est pas de la souillure, mais pourtant c'est haram. Donc, toute souillure est haram et pas tout haram est de la souillure. Par exemple, la statue c'est haram ou la halal? C'est haram la statue. Non. Est-ce que la statue c'est de la souillure? La statue c'est pas de la souillure et pourtant c'est haram. Taïf. Dans la page 163, Le cheikh rahimahullah dit دليل طهارة ما ليس له نفس سائلة كالنحلة والعقرب إلى آخر ذلك حديث غمس الذباب. Le cheikh a dit la preuve que tout ce qui n'a pas de sang quand on le tue. Quels sont les animaux, là, les insectes qui n'ont pas de sang lorsqu'on les tue? Par exemple, la mouche, l'abeille, le scorpion. Non, ce sont des animaux, des insectes, vous dites ce que vous voulez, mais qui, yani, ont un point commun, ils n'ont pas de sang. Non, prenez l'abeille, écrasez-la, elle meurt, mais il n'y a pas de sang. Alors, ces animaux, là, ces insectes qui n'ont pas de sang, non, est-ce que yani, ils sont purs ou bien ils sont souillés, ils font partie de la souillure. Le cheikh Rahimallah dit, ils sont purs. Ils sont purs. Naam. Quel est le délit? Le délit est clair. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que vous connaissez tous, je ne l'ai pas là entre mes yeux, mais je le dis yani, d'une façon approchée. Naam. Je dis yani, son sens. Il a dit que la mouche avait dans une de ses ailes, elle avait un poison, hein, et dans l'autre, elle avait l'antipoison, dans l'autre aile. Il a dit donc, si jamais une mouche tombe dans un de vos vers, elle tombe sur yani, une aile, on ne sait pas sur quelle aile elle est tombée. Peut-être qu'elle est tombée sur celle du poison. Donc, il a dit, il faut la tremper, ensuite la jeter. Le fait de la tremper dans l'eau, dans la boisson, est un délit qu'elle est pure. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnerait qu'on trempe de la souillure, ensuite qu'on boive? C'est pas possible. Si la souillure tombe dans un verre, on va jeter la boisson qu'il y a dans le verre. Alors qu'ici le prophète alayhi wa sallam te dit d'enfoncer encore l'abeille ou la mouche, de l'enfoncer encore. Donc c'est une preuve que quoi? Que yani, tout animal ou l'insecte qui, si on le tue, ne donne pas de sang, ça veut dire qu'il est, inshallah ta'ala, pur. Pur. Dans la page 164, le Cheikh Rahimahullah a dit que Rajih, c'est-à-dire l'avis le plus sûr des savants. Parce que quand on dit Rajih, donc ça veut dire qu'il y a une divergence. Donc d'après le Cheikh Rahimahullah, l'avis le plus sûr des savants, que l'urine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses excréments il défèque sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit donc l'urine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses excréments, l'avis le plus juste, c'est que c'est de la souillure. Pourquoi? Car il y a certains savants qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il est pur à 100%, que même son urine et ses excréments sont purs. Le cheikh a dit non, ça c'est pas vrai. L'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que son urine et ses excréments sont de la souillure. Ensuite, il a cité ici un hadith, il a cité d'abord le verset où Allah ta'ala dit Innama ana basharun mitlukum, où Allah ta'ala dit dans le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis qu'un être humain comme vous, je ne suis qu'un homme comme vous. Innama ana basharun mitlukum. Donc, s'il est un être humain comme nous, il doit, yani, ses excréments et son urine doivent être de la souillure. Naam. Ensuite, il a cité aussi un autre hadith que, naam, et ce hadith, en cherchant, j'ai trouvé qu'il était daif, qu'on lui a donné, il a une fois cherché quelque chose pour s'essuyer, on lui a donné un os, et qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que l'os, yani, ne purifiez pas. Cheikh Ibn Al-Uthaymin a dit, s'il ne purifie pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ses excréments sont souillés. Il cherche quelque chose qui purifie. Il a dit, voilà la preuve, inshallah ta'ala. Non. Dans la page 171, le Cheikh Rahimahullah, quand il a cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si ce n'était pas qu'il ne voulait pas, si ce n'était pas qu'il ne voulait pas, yani, disons, peiner, yani, sa umma, Il y a mieux que peine, j'ai pas trouvé le verbe, c'est tout. Il a dit, alors je leur aurais ordonné qu'ils mettent le siwak, hein, qu'ils utilisent le siwak dans chaque wudu, dans chaque ablution. On ne parle pas du hadith qui dit dans chaque salat, l'autre hadith authentique, qui dit dans chaque, quoi, dans chaque ablution. Le cheikh rahimahullah a dit, l'avis le plus juste, c'est que on utilise le siwak pendant les ablutions, précisément quand quoi? Quand on met de l'eau dans la bouche, le madmada. Quand on met de l'eau dans la bouche, il a dit, c'est à ce moment-là qu'on prend le siwak et on se lave la bouche, et on se, disons, on s'essuie la bouche avec le siwak. Ensuite, yani, on jette l'eau qu'on a dans la bouche. Nan. Dans la page 219, dans la page 219, le cheikh rahimahullah a dit, ومما يدل على أن رحمة الله تغلب غضبه أن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة. Dans la page 219, le cheikh rahmatullah a dit, ce qui montre et démontre que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grande que sa colère, ou bien ce qui démontre que sa miséricorde va, le verbe vaincre, va sa colère, c'est quoi? Il a dit, c'est que les portes du paradis sont au nombre de 8, alors que les portes de l'enfer sont au nombre de 7. Vous savez que l'enfer n'a que 7 portes. Par contre, le paradis en a 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est beaucoup plus grande que sa colère. Dalil, 8 portes pour la miséricorde et 7 seulement pour la colère. Donc c'est une preuve que yani, la miséricorde est plus grande. 8 pour le paradis et 7 pour Jahannam. L'ayadu billah. Tayyib. Ensuite, c'est dommage ce que je vais citer ici. C'est dommage que j'ai oublié de citer le numéro de la page. Non. Le numéro de la page. Des fois, il m'arrive d'oublier de citer, je m'oublie et je n'ai pas cité le numéro de la page. Mais ma'alish, c'est une faïda que vous trouverez, inshallah ta'ala, si vous cherchez. Au moins, vous saurez que, yani, si jamais on vous demande où se trouve ce que je vais citer, vous dites dans Boulour al-Maram, entre la page 219 et 245. C'est là où j'ai oublié de noter la page. Le cheikh a dit, le fait de lever ses mains pour faire les doigts, ça se divise en quatre sortes. Il y a quatre sortes. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Première sorte, c'est interdit absolument de lever les mains. Dans la première sorte, c'est interdit absolument de lever les mains quand on fait les doigts. C'est où? C'est à l'intérieur de la salat. Quand quelqu'un dit Allahu Akbar, il est rentré dans la salat. Et maintenant, par exemple, il vient de se prosterner, ou là il vient de s'incliner, ou là il est debout en train de réciter. Est-ce qu'il a le droit de lever les mains pour aller faire une doigt? Donc, c'est absolument interdit dans la salat de faire les doigts. Même s'il est prosterné, qu'il fait les doigts, il lève pas les mains. Il lève pas les mains. Qui font cela? Qui lève les mains dans la salat? Les rawafid, les shia. Je les ai beaucoup vus au Koweït, dans la mosquée. Je les voyais beaucoup. Non. Où ils lèvent exactement dans la salat? Après qu'ils se relèvent de l'inclinaison. Ou de l'inclination. Ils disent, Sami'a Allahu liman hamida. Ils lèvent les yeux vers le ciel et lèvent les mains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Ensuite, ils descendent pour se prosterner. Donc, les djouhel, les grands djouhel, ils font deux grandes fautes. La première, ils lèvent les yeux vers le ciel, alors que c'est interdit. Vous connaissez le hadith authentique qui dit que quiconque, c'est interdit de lever les yeux. Il dit quiconque lève les yeux vers le haut, si jamais il devient aveugle, alors je me désavoue de lui. Ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la première grande faute. Et la deuxième grande faute, il lève les mains. Il lève les mains pour faire les doigts. Donc c'est la première sorte. La première sorte, interdiction absolue à l'intérieur de la salat. Deuxième sorte, interdiction Nam, particulière. Il y a une interdiction particulière. Où il a dit, quand on est Yom al-Jumu'ah sur le mimbar. Quand on est Yom al-Jumu'ah sur le mimbar, l'imam veut faire des doigts, c'est interdit qu'il lève les mains. Et d'ailleurs, Yom al-Jumu'ah sur le mimbar, ce n'est pas sunnah de terminer toujours la deuxième khutbah, de la terminer par des doigts. Ce n'est pas sunnah. Mais de temps en temps, s'il fait des doigts, malish. Mais chaque vendredi, on termine par des doigts. Ce n'est pas sunnah, ça rentre même dans la bid'a. Al-Muhim. Maintenant, si jamais l'imam il veut faire des doigts de temps en temps sur le mimbar, ça ne fait rien. À condition quoi? Qu'il ne lève pas les mains. Et vous connaissez le hadith dans Sahih Muslim où le sahabi Omar ibn Ru'ayba radiallahu ta'ala anhu a vu Abdel Malik ibn Marwan, si je ne me trompe pas, hein, en train de lever les mains pour faire les doigts. Il lui a dit Qabbaha Allahu hatayni al-yadayn. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, fasse du mal ou quelque chose comme ça, ses deux mains. Non, il a dit, Wallah, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des doigts, mais jamais il levait la main. Il levait seulement l'index. Il levait l'index et le pointé vers le ciel. Non, il levait l'index et le pointé vers le ciel. Donc c'est interdit sur le mimbar de quoi de lever les mains. Et c'est beaucoup plus interdit pour les prieurs. Non, de lever aussi les mains avec l'imam. C'est beaucoup plus interdit. C'est pour ça qu'il y a un savant hanafite qui s'appelle, attendez comment il s'appelle, une seconde, je le cherche, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Ça y est, Inch'Allah, quand je reviens de l'Aïcha, j'aurai son nom, Inch'Allah. Non, mais il s'appelle Ibn Abidin. Ibn Abidin, dans son livre très connu, qui s'appelle, attendez, Hashiya, Hashiyat Ibn Abidin. Il a dit dans ce livre que, si jamais les prieurs lèvent les mains avec l'imam pour faire les doigts, ils auront des péchés. Il a dit, ils auront des péchés. Ça c'est la deuxième sorte. Troisième sorte, il a dit, donc on vient de voir deux sortes interdites. La troisième sorte, il a dit, mashrou'a. C'est-à-dire, c'est permis. C'est permis. Non? C'est où? Il a dit, je dis non seulement permis, mais recommandé même. Il a dit, dans Salat al-Istisqa, quand on fait, yani la Salat, pour que la pluie tombe. Là, c'est sunnah que l'imam lève les mains et que ceux qui sont derrière lui lèvent aussi les mains avec lui. Non. C'est aussi sunnah de lever des mains à Arafat. Quand on va au Hajj, on monte sur Arafat, entre l'Asr et le Maghreb, la personne lève les mains et fait des doigts. C'est aussi le sunnah de lever les mains quand on fait le Hajj ou l'Umrah, quand on est sur Safa et sur le Marwa. Safa et le Marwa, c'est sunnah de lever les mains là-bas. C'est aussi sunnah de lever les mains pendant Qunut, lorsqu'on fait le Tarawih, le Qunut du Tarawih. Et c'est aussi sunnah de lever les mains quand quelqu'un veut, par exemple, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Il a fait une faute, ou là, il lève ses mains, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, astaghfiruka, et pardonne-moi, et comme ça. Non. Il y a un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens. Ça, c'est la troisième sorte. Et la quatrième sorte, où, yani, maskoutun anhu. Maskout, ça veut dire, la sharia n'a rien dit en ce qui concerne la quatrième sorte. Ni elle a dit c'est interdit, ni elle a dit yani faites-le. Il a dit yani la sharia c'est tu, n'a rien dit à ce propos. C'est quand par exemple, c'est quand on fait des doigts d'une façon générale. D'une façon générale, par exemple, maintenant par exemple, je vais par exemple, mettre le micro par exemple, ensuite, je vais penser à une maladie ou là je ne sais pas quoi. Je lève mes mains et je commence à faire des doigts. Ou là, je pense par exemple, mon fils qui n'est pas là, qui est malade, qui est loin. Ou là, je lève mes mains et je fais des doigts. Non. Est-ce que ici, Yanné, puisque la chair est assez tue, est-ce que c'est bien c'est mieux de lever les mains ou c'est mieux de faire des doigts sans lever les mains. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, le mieux, dans les doigts en général, le mieux, c'est de lever les mains. Tant qu'il n'y a pas une interdiction spéciale, donc le mieux dans les doigts, en général, c'est de lever les mains. À cause du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, naam, yani yistahi, yistahi, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, disons, comment qu'on dit yistahi, à honte, vous l'avez pudique, Allah subhanahu wa ta'ala, que quoi? Que son serviteur, yani, lève ses mains vers lui et qu'il les lui rende, yani, sans exaucement. Il y a un hadith comme ça authentique. Vous devez tous le connaître. Non. Allah subhanahu wa ta'ala yistahi, Allah subhanahu wa ta'ala yistahi, si jamais son serviteur lève les mains, qu'il les lui rende vides comme ça, sans lui exaucer. C'est pour ça qu'en général, quand on fait des doigts, hein, c'est quoi? C'est de la sunna de lever les mains, bi'idna ta'ala. Et il y a aussi, ça coupe, ça coupe. Maintenant c'est le moment, inshallah ta'ala, il vient de faire l'adhan, je vais à la salat et je reviens, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جبي في صلاه العشاء جوبي ان شاء الله السلام عليكم
السلام عليكم une dame de 43 ans tombe enceinte depuis 4 ans mais au final c'est une dame de 43 ans tombe enceinte mais au final au bout de 3 mois maximum elle a un arrêt de grossesse les cœurs des bébés qui s'arrêtent à chaque fois. Donc la question est très mal posée. On sait pas. Enfin, donc elle est tombée enceinte 5 fois et toujours le même problème. Cette femme a déjà 3 enfants et elle pense que c'est à cause de l'âge. Ou est-ce qu'Allah qui veut ça, qui ne veut pas? Que c'est pour son bien. Les médecins disent qu'elle n'a pas de problème de santé. Elle veut encore avoir des enfants, mais elle a peur car à chaque fois, elle est triste de perdre l'enfant. Elle suit maintenant qu'Allah ne veut pas ça, mais c'est elle qui insiste. Donc c'est très simple, une phrase en 2 mots, 3 mots, on a fait une phrase en disant que là, il y a eu 3 fausses couches ou 4 fausses couches, que c'est elle qui insiste, que doit-elle penser et que doit-elle faire? Doit-elle cesser de vouloir encore des enfants? Elle pense que c'est contre la volonté d'Allah et que maintenant elle accepte ce qu'Allah a décrété. C'est une question. Doit-elle se faire une ruqya elle-même sachant qu'elle connaît assez le Coran? Que doit-elle penser et faire? Donc ça se répète. Si vous pouvez répondre en français et en algérien, barakallahu fikoum. Pour résumer, c'est une femme qui est âgée de 43 ans. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, depuis 4 ans en fait, au bout de 3 mois à peu près, donc il y a une fin de grossesse. Il y a pas le bébé ne grandit pas et donc il meurt. Donc elle se pose la question, vu qu'elle est en bonne santé, est-ce que c'est à cause de son âge qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, que en fait la grossesse elle va pas à terme, ou c'est Allah qui ne veut pas et que c'est un bien pour elle en fait. Pour résumer. Deuxième question, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour ce cours qu'Allah vous préserve. J'aimerais savoir s'il est autorisé de faire un tirage au sort pour décider du nom de notre.
Naam, Abou Khadija, parce que naam, tu étais en train de parler, que moi j'avais une urgence au téléphone, donc c'est pour ça que je t'ai donné le raid. Fadal, Inch'Allah, j'ai entendu la première question, et la fin de la première question, est-ce qu'elle a dit de parler en français ou elle a dit de parler en algérien? Fadal.
Naam, Cheikh, donc elle dit, si vous pouvez répondre en français et en algérien, dans les deux, Inch'Allah. Donc la deuxième question, Cheikh, si vous avez bien compris, la première, donc, j'aimerais savoir s'il est autorisé de faire un tirage au sort pour décider du futur prénom de l'enfant, une liste de prénoms qui plaît, qui leur plaît aux parents. Barakallahu fikoum. Troisième question. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheikhouna, est-il permis de faire le jeûne de Daoud alayhi salam pour une durée de 1 mois et de le renouveler tous les mercredis? Quatrième question, Cheikh. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cheikh. Tout d'abord, nous sommes très heureux de vous revoir, alhamdoulilah, en espérant que vous allez bien. Que les cours, pardon, pourront bientôt reprendre de manière régulière comme auparavant. Ma question concerne la raison de l'être humain. Se situe-t-elle au niveau du cœur ou du cerveau? Ça, c'est la première question. Et donc, la suite, y a-t-il différents avis à ce sujet? Si oui, quels sont-ils? Qu'Allah vous récompense et vous accorde le Firdaus. Dernière question, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma question concerne un hadith. Donc, le hadith est le suivant. Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Je dis alors, ô messager d'Allah, tu as accompli cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs, tes péchés antérieurs et futurs. Il dit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. La partie que j'ai pas compris de ce hadith, c'est quand Aïcha radiallahu anha lui dit, Allah t'a pardonné. Dans la bonne traduction, c'est Allah ne t'a-t-il pas pardonné tes péchés antérieurs et futurs? Que cela veut-il que en fait, on veut dire quel est le sens de cette interrogation de Aïcha. J'ai compris que le prophète Ali salam a fait des péchés, mais je crains de ne pas avoir bien compris. Barakallahu fikoum. Voilà pour les 5 questions, les 5 premières questions. Je répète la troisième question, inchallah. La sœur dit, est-ce qu'on peut faire, on peut prendre comme modèle le psaume, le jeûne de Daoud. Et on fait une fois par mois. Donc le jeûne de Daoud est dit une fois par mois et renouveler cela tous les mercredis. Yannis, c'est ce qui est écrit, cher.
Alaykoum salam wa rahmatoullah. Naam. Pour ne pas écrire la première question, pour ne pas l'écrire, siyam Daoud, naam, c'est jeûner un jour et manger un jour. Et le hadith a dit que c'était le meilleur siyam. Le meilleur siyam, c'est le siyam de Daoud, alayhi salam. Maintenant, la personne dit, si elle veut faire comme ça, yani seulement de temps en temps. C'est possible. Naam. Siyam Daoud, je le fais par exemple. Pendant quoi? Pendant 1 mois, pendant 2 mois, à condition que quoi? À condition que maintenant il ne s'appelle plus le siyam de Daoud. Siyam de Daoud, quand il a commencé, c'est jusqu'à la vie. Mais si maintenant quelqu'un veut sommer de temps en temps, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, et comme ça pendant 1 mois, 2 mois, ça ne fait rien. À condition, pas comme a dit la personne, yani chaque mercredi ou là, elle le reprend. Dans ce cas, elle a fixé un jour spécial pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour le siyam. Comme ça, c'est pas bien le risque de rentrer dans la bid'a. Mais elle ne fixe pas de jour. Elle ne fait pas un jour spécial. Chaque mercredi de chaque mois, je commence là. Non. Mais, par exemple, aujourd'hui elle mange, demain elle jeûne, aujourd'hui elle mange, demain elle jeûne. Ensuite, elle est fatiguée, elle va dire j'arrête. J'arrête une semaine, j'arrête 10 jours. Quand elle sent que yani elle a maintenant l'envie et la force, elle refait ça encore 2 mois, 3 mois. Maalesh. Il y a, inshallah ta'ala, aucune interdiction pour cela. Non. Maintenant, on revient à la première question. La personne qui a dit qu'elle avait 43 ans, qu'elle était enceinte 5 fois, etc. etc. Chaque fois que yani, elle est enceinte, elle quoi? Elle perd ses enfants. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, elle dit, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne veut pas? Ou bien c'est yani, si ça vient d'autre chose? Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala. Pour répondre, je vais dire. Avant de dire cela, il y a une chose, une petite chose qui m'a interpellé, qui a aussi rapport avec ce qu'on est en train de dire. Même, avec, yani parmi les personnes qui sont connectées avec nous, il y a, je pense que c'est une sœur, Allah alam, je pense que c'est une sœur, Allah alam, qui a comme pseudo bientôt Oum, puisqu'on est en train de parler des enfants. Donc bientôt Oum, on lui dit que puisse Allah subhanahu wa ta'ala y accepter et faire de toi que tu deviennes bientôt une Oum. Mais ce que je voulais dire, et ce qui est plus intéressant aussi, c'est que de préférence, un pseudo pareil, de préférence, on dit bientôt Oum, Inch'Allah. On dit Inch'Allah. Quand je dis bientôt Oum, ça veut dire que j'ai la certitude, je sais, ça y est, que je vais devenir Oum. Et c'est pour bientôt. Alors que, en principe, on dit bientôt Oum, Inch'Allah. On ajoute Inch'Allah comme ça pour dire que c'est Allah Ta'ala qui décide. Moi, je peux décider, espérer d'être homme dans un mois et ça peut ne jamais arriver. C'est pour ça que pour que il y ait la baraka, on fait toujours appel à quoi? À Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que c'est lui qui a la première décision et la dernière. C'est pour ça que ce serait préférable que ce pseudo devienne bientôt homme, Inch'Allah. Donc pour celle qui avait 43 ans et qui plusieurs fois est enceinte, mais Allah subhanahu wa ta'ala décide que les bébés, disons, meurent, ça revient, comme elle a dit elle, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que il y ait un accouchement, qu'il y ait un bébé, personne, tous les ins, tous les humains et tous les djinns réunis ne peuvent empêcher un bébé d'exister, si je puis dire. Tous les êtres humains et tous les djinns ne peuvent entraver la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle. C'est pour ça que maintenant, si il n'y a pas, ça continue pas. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de ne pas créer, de ne pas créer ces enfants-là et ces âmes-là, pour des raisons, des sagesses que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul connaît. Et ensuite, on sait en règle générale que quand une femme, que quand elle dépasse 40 ans, que ça devient plus ou moins difficile pour que la femme ait des bébés, même si on. Ça peut donner, ça existe beaucoup de cas. Mais j'ai dit en général, ça devient un peu difficile. Et même les enfants risquent plus ou moins d'avoir certaines anomalies, comme le fait d'être par exemple, des Mongoliens. Comme le fait d'être des Mongoliens. Donc je dis à cette soeur, cette femme, je lui dis, tant qu'Inch'Allah ta'ala c'est possible d'avoir des enfants et de tomber enceinte, maalesh, fais-le. Ensuite, fais des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala continue la chose pour qu'il y ait l'enfant vivant. Si maintenant, il y a un accouchement ou là, il y a une fausse couche ou là, ça revient à la volonté d'Allah. On dit, qaddara Allah wa ma sha fa'al. Et on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, si je dois répéter ça en arabe algérien, je dois dire très vite que Allah subhanahu wa ta'ala إذا كتب الكش يعني الحمل يكتب أن الحمل هذا يعيش ما كاش اللي يقدر يحبس هذا الحمل. وإذا كل مرة المرأة تطرح هذا يرجع إلى مشيئة الله سبحانه عز وجل، هي من جهتها تحاول، تحاول أن تنجب الأولاد، وتشوف إذا ربي سبحانه كتب هذا الحمل وما كاش اللي يقدر يعترض مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا سقط هذا الحمل قدر الله ما شاء فعل، الله سبحانه وتعالى لم يريد ذلك. وفوق هذا السن عنده أيضا اعتبار، فلهذا الإنسان يصبر و يرجع أمره كله إلى الله سبحانه عز وجل. فيما يخص en ce concerne le tirage au sort des prénoms, c'est possible. نعم, c'est possible, c'est permis dans la charia d'avoir recours au tirage au sort quand yani c'est difficile yani de savoir par exemple quoi choisir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il faisait tirage au sort quand il voulait voyager et que yani il ne savait pas par qui commencer et qui choisir comme compagnon dans le voyage. Donc c'est permis de faire le tirage au sort et ça ne rentre pas dans le hasard ni la loterie. Naam. Pour la question, yani la raison, se situe-t-elle au niveau du cœur ou bien au niveau du cerveau? La plupart des savants, et l'avis le plus juste, hein, c'est que ça se, en islam, ça se situe au niveau des cœurs, au niveau du cœur et non pas au niveau du cerveau. Et comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est le cœur lui-même qui d'abord donne yani, disons le déclic au cerveau qui va prendre quoi? Qui va prendre yani, la décision de faire ou de ne pas faire telle chose. Naam. Enfin, pour le hadith de Aïcha, où Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala ne t'a-t-il pas yani, effacé tous tes péchés? On va dire que l'avis le plus juste chez un sunnah ou jama'a, que même les prophètes et les messagers font des péchés. Mais seulement ils ne font pas les grands péchés. Et la première des choses, ils ne font pas les grands péchés. Et la deuxième des choses, ils, yani, quand ils font un péché vite, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, les, comment on dit ça, yani, c'est pas les met en garde, mais, comment on dit en arabe, yunabbihuhum, yunabbih, 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 c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur montre, si je puis dire, naam, il leur montre qu'ils sont dans la faute et ils reviennent. Pas comme nous, par exemple, les autres êtres humains, à part les messagers, tu peux faire des fautes, tu peux faire une faute et continuer à faire le péché sans que personne ne yani, te montre que tu es dans la faute. Alors que les messagers, quand ils font une faute, naam, Allah ta'ala leur montre qu'ils sont dans la faute et ils s'arrêtent vite, bi'idhni ta'ala. Ensuite, le délil du Coran, que les messagers font des fautes, le délil qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah Ta'ala lui a dit فَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Sache qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite implore le pardon pour ton péché. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Implore le pardon pour ton péché et les péchés des croyants et des croyantes. Voilà, inshallah ta'ala, pour les 5 premières questions, bi'idhnillah ta'ala. Tafadhal pour les autres.
Ah, donc, les prochaines questions. Salam alaikum, cher. Je possède un site internet. Est-ce que je peux mettre sur mon site un lien vers un autre site qui contient une information licite que mes visiteurs cherchent, sachant qu'il peut y avoir des images figurées ou de la pub haram? Mon but étant de leur fournir une information, pas de leur montrer ces images ou ces pubs. Mais en allant sur le site, la personne peut voir ces images figurées. Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question concernant la prière. Peut-on faire fajr, puis ensuite sobh sans coupure? Ou bien faut-il laisser quelques minutes entre les deux salats? Même question pour le soir, pour Salat al-Aisha, Weshfeh ou l'Witr. Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. M'est-il permis de faire du babysitting moyennant un salaire qui est déclaré à l'État, sachant que la sœur qui veut me confier son enfant travaille dans un commissariat de police où il y a de la mixité et elle ne se couvre pas. Sachant aussi qu'il est difficile pour une sœur en France de trouver un travail, j'aimerais savoir s'il est possible de vous contacter par mail. Qu'Allah vous récompense grandement. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu fikum. Masha'Allah, votre retour nous fait plaisir. Walillahi alhamd. Nous sommes dans une ville où la da'wa salafia est nouvelle. En effet, elle n'est connue que depuis quelques années et elle se propage de plus en plus. Walhamdulillah. Par contre, j'aimerais que vous fassiez une nasiha, inshallah, spécialement aux frères de Nice. La plupart sont débutants et plutôt que d'étudier et d'appliquer surtout les bases, le minhaj, etc., ils passent la plupart de leur temps à se chercher les erreurs entre eux, mettre en garde contre Foulan, demander s'il peut faire Hajj al-Foulan, j'en passe, etc. Enfin, vous voyez bien de quel comportement je veux parler, Wallah al-Musta'an. C'est vraiment triste et dommage, car tout ceci ne fait que créer des fitans et diviser la da'wa salafia entre eux jusque dans les villes voisines. Min fadlikoum, conseillez-nous, ya Cheikh, hayakoum Allah, wa bayakoum, jazakoum Allah, wa khair al-jaza. Dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikhana, hayakoum Allah. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons parmi nous. Ma question est la suivante. Est-il autorisé à un frère de travailler dans une entreprise qui produit de la viande de porc? Son travail consiste à nettoyer les machines qui découpent la viande de porc et assembler des cartons. Il n'est jamais en contact avec la viande. Ceci rentre-t-il dans l'entraide, dans le péché et la transgression? Jazakumullah khairan, comment pouvons-nous vous contacter? Nous voudrions vous accueillir à Marseille pour un séminaire. Atfadal cher.
Naam, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je termine ma question très rare, j'écris. Pour la première question, reprenez-moi si je me trompe, les admins. Est-ce que pour la première question, est-ce que la personne a dit que elle voulait mettre un lien dans son site vers un autre site qui n'est pas bien, mais yani pour une chose qui est bien. Elle met un lien vers une chose qui est utile ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est comme ça? La question Bidna. Je vous donne le micro.
Non, c'est ça, cher. Dans ce site, en fait, il risque d'y avoir des choses pas bien. Voilà, dedans, il y a une information dont les visiteurs de son site recherchent. Mais il risque d'avoir des images, etc., qui ne sont pas bien. Tfada, cher.
Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, quand elle met le lien vers le site, elle doit mettre le lien vers la page, pas vers le site, vers la page où il y a l'information qu'elle veut, à condition que sur cette même page, il n'y a pas de haram, il n'y a pas d'images qui ne sont pas bien, etc. Donc, elle ne met pas le lien vers le site, mais vers la page à l'intérieur du site. Il y a une différence entre le site et une des pages. Et à condition, ça c'est la première condition, pas le site, mais la page, à condition que la page ne contienne pas yani, quelque chose de haram. Même si c'est comme ça, elle peut, Inch'Allah ta'ala. Pour la deuxième question, le fajr et le sobh, quand une personne fait salat al-fajr, elle ne doit pas, sans coupure, faire salat sobh. Mais elle attend au moins quelques minutes. Non, elle attend au moins quelques minutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'étalait, il dormait sur son flanc droit. Il restait quelques 5 ou 10 minutes, non, pour yani, se lever et faire salat sobh. C'est comme ça, la sunna ta'ala. Au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes. Non. Et au point où certains savants, comme Ibn Hazm, rahimahullah, même si ce qu'il a dit n'est pas le plus juste, mais pour vous dire que ça existe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quiconque fait salat al-fajr, ensuite ne s'allonge pas sur son flanc droit quelques instants, il a dit, s'il fait salat al-sobh directement sans s'allonger, il a dit, salat al-sobh est nul. Salat al-sobh ne sera pas accepté, elle n'est pas valide. Donc celui-là, il a dit, c'est obligé de s'allonger sur son flanc droit. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, ce n'est pas obligé. Le prophète sallam s'allongeait car il passait la nuit à prier, donc il était fatigué. Il s'allongeait comme ça quelques minutes et se levait sans dormir. Mais on dit ce n'est pas une obligation de s'allonger sur son flanc droit, mais c'est une obligation de quoi? D'attendre un peu pour ne pas lier les deux salats, d'attendre au moins 5 minutes. Non. Si c'était 10 minutes, ce serait mieux. Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à pour Salat al-Isha. Salat al-Isha. Et les deux rak'at qu'il y a après et Salat al-Witr, ce n'est pas une obligation d'attendre. Mais on peut, dès qu'on termine Salat al-Isha, on dit salam alaikum, salam alaikum, on peut, on fait vite le tasbih et on se lève, on fait les deux rak'at qu'il y a après Salat al-Isha et ensuite on fait le witr. Non, ce n'est pas comme la salade du Fajr avec le Sobh. Non. Pour la personne qui a dit qu'elle gardait le bébé de la femme et que cette femme allait travailler au commissariat, etc., etc., en général, les savants ont dit le musulman, non, s'il travaille chez un kafir, il ne doit pas travailler dans un travail qui est, disons, qui contient de la bassesse, si je puis dire. Par exemple, c'est pas permis pour un musulman de travailler chez un kafir, par exemple, de lui laver, par exemple, naam, lui laver, dégradant, naam, de lui laver, par exemple, je ne sais pas, de lui laver, de lui faire le ménage à la maison, par exemple, chez un kafir. Je vais lui faire le ménage, je vais lui laver ses souliers, non, je lui lave sa voiture. À midi, on se lave. Le musulman, quand il travaille chez le kafir, il ne travaille pas dans un travail qui est dégradant. Non, qui est dégradant, qui fait de lui, il devient petit devant le kafir. Il devient petit devant le kafir. Ça, c'est en général. Non. Donc, la personne a dit qu'elle gardait le bébé pour une femme, et cette femme allait au commissariat travailler, etc., etc. Non. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas lui dire c'est interdit, je peux lui dire s'il y a comment trouver pour garder le travail d'une autre personne, ça serait mieux. Une personne, une soeur ou une personne qui est dans le besoin de travailler, etc., je lui garde ses enfants. Non. C'est possible, comme j'ai dit, si elle est musulmane. Cette personne est musulmane. Mais je ne dis pas que c'est interdit pour les kofars. Mais je dis que c'est mieux, c'est tout. C'est mieux de chercher et amener les enfants des musulmans pour ne pas être la cause. Je lui garde son enfant, donc je suis la cause pour qu'elle aille, je ne sais pas où. Elle aille faire le haram, je ne sais pas où. Et moi, je lui garde ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne peux pas dire comme ça que c'est interdit. Pour la ville, je crois qu'elle a cité Nice. La personne, je crois qu'elle a cité Nice. Qu'elle a dit qu'il y avait peu de salafiyas et que de peu qu'il y avait, ils mettaient en garde contre eux, etc. Je dis très vite que, non, s'ils ont commencé comme ça, par s'occuper d'eux-mêmes et de mettre en garde contre eux, donc ceux-là, mais ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas aller loin. Pourquoi? Parce que le shaitan les a dissuadés du vrai but. Le vrai but, c'est de quoi? C'est de chercher la science légiférée, un petit kitab ou sunna, d'après la compréhension des salafs, et d'essayer de se grouper, de former un groupe comme ça de talibul ilm, de s'entraîner, etc., pour pouvoir faire la da'wa et la propager. Maintenant, s'ils ont commencé par les mises en garde, donc qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas aller loin et ils vont se disperser. Chacun, maintenant, va dire, toi tu es dans l'erreur, l'autre va lui dire, c'est toi qui es dans l'erreur, c'est X qui est dans l'erreur, et ils vont quoi? Ils vont se disperser, et les gens vont rire d'eux. Les gens vont rire d'eux, même les sectes, les autres, les Ikhwan, les Tablir, les Takfir, ils vont rire d'eux, ils vont dire, regardez les salafis, ils sont en train de mettre en garde contre eux, au lieu d'avancer, de chercher Talib al-Ilm, etc. Et en principe, je dis, ça devient comme ça quand est-ce que, quand parmi les salafis, il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau assez bien, assez fort dans la science. Donc, ils n'ont pas quelqu'un autour de qui graviter. Ils n'ont pas quelqu'un qui est mashallah dans la science pour graviter autour de lui et lui poser des questions, etc. pour que quand il y a un problème, c'est lui qui aide à dissiper ce problème. C'est ça le mouchkila. Ils sont tous dans le même niveau. Ils sont tous des débutants. C'est pour ça que ça va être un problème pour eux s'ils n'ont pas quelqu'un qui les guide et qui les oriente. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il unisse entre leur cœur et les aide à avancer dans le dîn. Enfin, pour la personne qui a dit qu'elle nettoyait les machines de porc, je lui dis que ce travail est interdit bi'idhnillahi ta'ala. Tu nettoies les machines et eux, qu'est-ce qu'ils font avec ces machines? Ils coupent, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, le porc. Donc toi, tu leur prépares le terrain. Tu leur prépares les machines avec lesquelles ils vont quoi? Ils vont couper le porc, etc. Donc, Inch'Allah ta'ala, tu dois faire ton possible pour t'éloigner de ce travail, bin ta'ala. Pour le séminaire, non, si c'est possible, Inch'Allah ta'ala, Allah ta'ala fera une solution. Si c'est possible, Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution. Tfadal, Inch'Allah, pour les prochaines questions.
Donc, les cinq prochaines questions. La première, salam alaykoum Cheikh, j'avais quelques questions à vous poser durant le mois de Ramadan. Cependant, nous n'avons pas eu l'occasion, donc, de se voir et de s'écouter sur Paltalk. Donc, mes questions concernent Zakat al-Fitr et concernent une femme qui est décédée pendant le mois de Ramadan. Sa famille doit-elle sortir Zakat al-Fitr sur les jours qu'elle a jeûné avec eux? Et peut-on donner Zakat al-Fitr en viande? Voilà. Deuxième question, Cheikh. Alors, je suis une femme divorcée depuis peu. J'ai la garde de mes enfants. Le divorce ici, c'est le divorce charaï. J'ai la garde de mes enfants en bas âge, 4 ans et 2 ans et demi. Le père de mes enfants ne s'est jamais vraiment occupé d'eux et de leur éducation. Il ne veut pas faire des démarches auprès de l'État pour divorcer auprès d'un tribunal. Il ne veut pas s'arranger pour fixer des jours pour rendre visite à ses enfants, mais veut plutôt les prendre quand il décide et quand il le veut et quand ça l'arrange. J'ai conscience de mes enfants que mes enfants doivent voir leur père et maintenir les liens de parenté, puisque c'est une obligation dans l'islam. Et je ne veux en aucun cas lui interdire de leur rendre visite. Je veux simplement fixer des jours réguliers, mais espacés pour le bien-être des enfants et leur stabilité. Ma question, Cheikh, est de savoir si je peux fixer des jours à au père de mes enfants pour qu'il vienne chercher ses enfants, en sachant tout de même que lorsqu'il les prend à fond, il ne s'occupe pas bien d'eux, il les lave pas. Il n'échange pas malgré le sac d'affaires que je prépare, mais qui ne sert jamais qui ne sert jamais. Est-ce que je peux aller au commissariat pour faire une déposition pour abandon de domicile et violence à fond conjugale? La question d'après, salam alaykoum Cheikh, une personne fait construire une mosquée fi sabilillah. Est-elle responsable si dans cette mosquée l'imam est un innovateur? Donc c'est trois questions. Quatrième question, Cheikh. Nous souhaiterions, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikhana, nous souhaiterions avoir quelques conseils concernant le comportement adopté avec les koufars. Cinquième question, Cheikh. Si je me trompe, vous me dites hein, si ce n'est pas la cinquième question. Comment doit-on se comporter avec un père injuste qui fait des différences entre ses enfants et nous empêcher de pratiquer notre religion malgré le fait qu'il soit musulman et qu'il fait la prière? Barakallahu fikoum wa jazakoum khair.
Abou Khadija, est-ce que tu m'entends? Si oui, sache que je n'ai pas entendu la quatrième et la cinquième question.
Je vous entends très bien. Je vais répéter la quatrième et la cinquième, Inch'Allah. Donc la quatrième question. Voilà. Donc, salam alaykoum, Cheikhana. Nous voudrions savoir comment se comporter avec les koufars. Le comportement avec les koufars. Cinquième question. Salam alaykoum, Cheikh. Barakallahu fikoum. Comment doit-on se comporter avec un père injuste qui fait des différences entre ses enfants? et nous empêche de pratiquer notre religion, même malgré le fait qu'il soit musulman, bien sûr, et qu'il fait la salat. Voilà, Cheikh. Inch'Allah, vous m'avez bien entendu.
Pour la première question, quand une personne, là, elle jeûne quelques jours, ensuite elle meurt, avant que le ramadan ne se termine, elle n'a pas de zakat. La zakat, c'est pour qui? C'est pour celui qui a fait tout le ramadan. La personne qui a fait tout le ramadan, c'est celle-là qui a la zakat. Si une personne, elle meurt une nuit avant l'Aïd, donc il n'y a plus de zakat pour elle. Pourquoi? Parce que la zakat, pour la personne qui a jeûné le mois, c'est celle-là qui doit sortir la zakat, inshallah ta'ala. Ensuite, pour la viande, elle dit, est-ce qu'on peut donner zakat al-fitr en viande? La viande, en général, pour les gens de maintenant, ce n'est pas quelque chose qui se mange yani, tous les jours, au quotidien. On ne mange pas la viande au quotidien. Zakat al-fitr, c'est pour la chose qui yani, se mange chez les gens au quotidien. C'est pour cela, par exemple, que, comme disent maintenant les savants, par exemple, maintenant, on ne va pas donner comme zakat al-fitr les raisins secs. Alors que le raisin sec, ça rentre dans la zakat. Si vous allez chercher dans les. Qu'est-ce qu'on donne dans le zakat fit, vous allez trouver par exemple les lentilles, vous allez trouver par exemple les raisins secs, vous allez trouver la semoule, etc. Alors que les raisins secs, par exemple, de nos jours, ce n'est pas quelque chose qui se mange au jour la nuit. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit qu'on peut donner de la viande aux gens qui, la viande, c'est leur quotidien. On peut donner, il a dit aussi, le poisson pour les gens, par exemple, qui vivent, par exemple, au pôle Nord. Pôle Nord, que mangent les gens au pôle Nord? Ils mangent surtout les poissons. Donc, pour eux, le poisson, c'est quelque chose qui se mange au journalier. C'est pour ça on leur donne les poissons. Mais on ne va pas donner à une autre personne, par exemple, à moi, on ne va pas me donner, par exemple, zakat fait le poisson. Pourquoi? En parenthèse, si c'était permis que je prenne zakat, mais si c'était permis, hein, zakat fait. On ne va pas me donner le poisson parce que ce n'est pas mon manger quotidien. Mais mon manger quotidien, c'est la semoule, c'est les lentilles, les haricots. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen dit que comment il s'appelle, macaroni. Macaroni, il dit, c'est possible de donner aux zakat. Parce qu'il y a des gens qui mangent ça presque tout le temps. Ça y est. Maintenant, pour la divorcée, etc., les pâtes, voilà, les pâtes. La personne a dit que pour qu'est-ce qu'elle a dit? Non, pour la personne qui a parlé des enfants, etc., la garde, etc., etc. À la fin, elle a dit, est-ce que je peux aller au commissariat pour déposer plainte, etc., etc. Pour yani, elle a cité deux choses, j'ai oublié. El Mouhim. Je dis, comme dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, non, aller au commissariat pour déposer plainte, comme vous savez, c'est recourir à des lois qui ne sont pas des lois divines. Recourir, yani, aux lois qui ne sont pas des lois divines, c'est-à-dire qui ne sont pas la charia. Donc, cette chose n'est permise que dans deux conditions. La première condition, comme dit Cheikh Al-Albani, être dans la nécessité. Je suis dans la nécessité, hein, je n'ai plus que cette issue. Elle dit donc, c'est la personne elle-même qui sait. Est-ce qu'elle est dans la nécessité ou elle ne l'est pas? Et la deuxième des choses, comme dit Cheikh Al-Albani, il faut que yani, ce qu'ils vont maintenant juger, ce qu'ils vont donner comme jugement, hein, que ce soit au commissariat ou là, que ce soit au tribunal, il ne faudrait pas que ça se contredise avec la charia. Il ne faudrait pas que ça se contredise avec la charia. Je vais donner un exemple. Non. Par exemple, une femme divorcée, par exemple, maintenant, question de pension. Par exemple, je donne un exemple, c'est tout. Hein. Par exemple, question de pension, supposons, c'est une supposition que la charia dise 10 euros pour l'enfant. C'est juste un exemple. La charia dit, par exemple, si une femme divorce, elle prend la garde, son mari doit lui donner 10 euros par enfant. Et maintenant, elle sait que si elle va déposer plainte au tribunal, on va lui donner 50 euros par enfant. Dans ce cas, c'est interdit. Elle ne doit prendre que 10 euros pour enfant et les 40, elle doit les donner pour gagner les nécessiteux. Ce n'est plus quoi? Ce n'est pas son droit. La charia ne lui a donné que 10 euros. C'est un exemple. Là, c'est un exemple. Voyez, donc, je dis à cette sœur, elle peut, si elle est dans la nécessité, et si elle sait que yani, le jugement qu'ils vont donner ne se contredit pas avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle ne va pas prendre plus que ne lui donne la charia. Une personne qui construit une mosquée, là, si elle sait d'avance que pour cette mosquée, on va lui mettre un imam qui est innovateur. Dans ce cas, il vaut mieux qu'elle ne construise pas la mosquée. Pourquoi? Car la mosquée, non, c'est pas on construit une mosquée pour une mosquée, mais on construit une mosquée pour que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on sait d'avance qu'il va y avoir un innovateur, donc celui-là, on va l'aider à ce que il leur apprenne les bid'a, le shirk, tout ce qui se contredit avec la charia. Mais si on ne sait pas qui va venir imam dans cette mosquée, non, on peut, inshallah ta'ala, construire la mosquée parce qu'on ne sait pas qui va venir. Ou alors, on la construit avec la niya de mettre dans la tête que, yani, inshallah ta'ala, quelqu'un de bien va venir. Mais là, je peux donner juste un petit avis. Je peux donner un petit avis. Non. Je connais quelqu'un ici, par exemple, qui, à chaque fois, non, il construit des mosquées. Quelqu'un que Allah Ta'ala lui a donné beaucoup d'argent, mashallah, et avec son argent, il construit des mosquées. Mais qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, avant de construire la mosquée, qu'est-ce qu'il fait? Il leur met comme condition que c'est lui qui leur amène un imam. Il leur dit comme ça. Voilà, je vais vous aider, vous construire la mosquée à condition, yani, c'est moi qui choisis, qui est l'imam qui va, inshallah ta'ala, diriger cette mosquée. Surtout que chez vous en France, par exemple, les mosquées, yani, ne sont pas étatiques. Ce n'est pas l'État qui les gère. C'est des privés. Donc, si c'est privé, je peux mettre ça comme condition. Je construis la mosquée, mais c'est moi, inshallah ta'ala, qui vous ramène l'imam. Là, maintenant, s'il a terminé de construire la mosquée et on la lui a prise de force et on a mis un autre imam, lui, il se désavoue et il a, inshallah ta'ala, le ajr d'avoir construit la mosquée. Pour le comportement avec les kuffars, CFCM, enfin, je ne sais pas c'est quoi. El Mouhim, pour l'avant-dernière question, il a dit comment se comporter avec les kuffars. Comment se comporter avec les kuffars? D'abord, les kuffars, il y a deux, trois ou quatre sortes. Et deuxièmement, le comportement, il y a mille et une choses. Comment se comporter, avec qui, yani, pendant quoi, pendant les fêtes, pendant yani, les choses, pendant les épreuves, pendant les maladies, pour la vente, pour le mariage, ça dépend. La personne n'a pas dit ce qu'elle veut dire par là, l'âme, envers les kofars. Ça demande un cours. Ça demande un cours pour dire comment se comporter en général. Mais je dis en deux ou trois mots, l'âme, le kafir, j'essaie toujours de lui montrer, yani, le bon côté de l'islam. Et de lui montrer que je suis, yani, mieux que lui, question de comportement. Car le kafir croit que, yani, moi je suis un illettré, je suis un abruti, je suis quelqu'un qui pense pas loin, je suis quelqu'un qui ne connaît rien, je suis un terroriste, je suis quelqu'un qui pense seulement à égorger les gens, etc. Moi je lui montre que l'islam, c'est, yani, vraiment le comportement le plus parfait. C'est pour cela que l'islam ne me demande pas de beaucoup parler, mais de beaucoup agir. Avec mon bon comportement, beaucoup de kuffars vont pencher vers l'islam. Ils vont me dire, yani, tu es masha'Allah, yani, vous avez un bon comportement. Et moi, à chaque fois, je lui dis, naam, ce n'est pas mon comportement, ça c'est l'islam. Moi, je ne suis rien. C'est l'islam qui m'a dit d'être comme ça et qui m'ordonne d'être comme ça. En général, je dois avoir le meilleur comportement possible, pour attirer les gens vers l'islam. Enfin, pour la dernière question, le père qui est injuste avec les enfants, qui nous empêche aussi d'appliquer, etc. Pour la personne, si la personne est jeune, n'est pas au stade du mariage, même je lui dis, elle doit patienter. Elle doit patienter, faire beaucoup de doigts, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire une issue et de patienter avec un père pareil, sans que ça m'empêche, yani, de lui donner comme ça des conseils. De lui dire, lui, par exemple, voilà, par exemple, tu donnes à l'autre, moi tu ne me donnes pas, etc. Même de montrer que, yani, avec, dans un cadre, yani, plein de sentiments et de bons sentiments, je lui montre par exemple qu'il fait des fautes. Non, ça n'empêche pas de montrer, yani, ça m'empêche pas en islam de montrer à quelqu'un qu'il a fait une faute, mais sans lui montrer de l'adversité, sans faire de lui mon ennemi. Et je patiente. Et je fais des doigts jusqu'à Allah Ta'ala me fasse une issue. Maintenant, si la personne a atteint le stade de mariage, pour elle et pour lui, la meilleure façon, c'est de se marier pour aller fonder un foyer, un nouveau foyer, et de s'éloigner de lui, tout en demandant à Allah Subhanahu wa Ta'ala de guider mon père, bi'idhnillah Ta'ala. On arrête, Inch'Allah Ta'ala, ici. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, après Salat al-Maghrib, vers 19h30. C'est pas 19h45, vers 19h30.
Madame, monsieur, vous avez perdu le micro, mais juste une précision parce que la sœur qui a posé la question pour le divorce, en fait, elle vous a posé une question, vous n'avez pas répondu par rapport aux enfants. Elle a été divorcée au niveau de Sharaïen, mais pas au niveau de la justice, et donc elle n'a pas de droit. Donc son mari ne veut pas la divorcer au niveau de la justice parce qu'il y a des frais à payer, etc. Mais au niveau des enfants, elle vous a posé la question, est-ce qu'elle peut imposer à son mari, à son ex-mari, on va dire, le père de ses enfants, des jours fixes, parce que c'est après c'est les koufars qui vont, la justice c'est eux qui vont trancher, et elle en fait elle veut pas passer là pour l'instant, elle veut, est-ce qu'elle peut le faire déjà d'avance, comme ça elle fixe des jours pour que le mari vienne, il prend ses enfants, et puis un jour ou deux, je sais pas comment ça se passe. Voilà, très bonne chose.
Non. Chauffe, en islam, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que la charia a dit. C'est pas ce qu'a dit le tribunal, non, des kuffars, comme vous le savez. Et la charia, qu'est-ce qu'elle dit? Quand quelqu'un est divorcé, c'est la femme qui a la garde des enfants. Qu'est-ce qu'elle dit, la charia? La charia a dit que, non, pendant la nuit, c'est la femme, par exemple, c'est l'épouse qui a la garde de l'enfant. Mais pendant le jour, c'est le père qui a l'enfant. C'est comme ça en islam. Pendant la nuit, c'est chez sa mère, et pendant le jour, il est chez son père, car en principe, c'est, en général, c'est l'homme qui apprend, yani, le bon comportement et l'islam, etc., à son enfant. La mère, elle est tout le temps occupée, etc. C'est pour ça que quand elle dit maintenant j'empêche son père, ou bien je lui donne seulement quelques jours, donc c'est à l'encontre de la charia. C'est à l'encontre de la charia. La charia ordonne à la femme de laisser l'enfant avec son père pendant la journée. Et que c'est seulement la nuit qu'il revient vers elle. Maintenant, si jamais il y a d'autres facteurs qui rentrent dans cette chose, comme par exemple le père qui est pervers, le père qui apprend à son enfant des choses qui sont pas bien, le père qui, par exemple, va monter son enfant contre sa mère, etc., il va lui dire, celle-là, c'est une terroriste, celle-là, elle n'applique pas le dîn. Là, yani, le juge, bien sûr, va avoir son mot pour laisser, yani, cet enfant, yani, pour laisser ce père, yani, voir son enfant seulement, yani, il va lui restreindre 10 jours. Non, ça, c'est des cas particuliers. Mais en cas général, non, le père doit voir son fils, yani, tous les jours, pendant la journée, et c'est seulement la nuit qu'il revient vers sa mère. Voilà, inchallah ta'ala, pour la réponse. Sauf, comme j'ai dit, s'il y a des cas spéciaux. Dans ce cas, il y aura autre chose, inshallah ta'ala. Pour le prochain cours, ce sera, inshallah ta'ala, mercredi vers 19h30, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.